Le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'opposition de centre-droit remporte de justesse les élections législatives au Portugal devant les socialistes. Et puis l'extrême droite sort renforcée. Nous rejoindrons notre envoyé spécial à Porto.
Amnesty International publie un rapport sur les responsabilités dans la catastrophe de Derna 6 mois. Après les inondations dans l'est de la Libye, l'ONG réclame l'intervention des États-Unis, des Nations Unies.
Emmanuel Macron annonce un projet de loi pour une aide à mourir, mais très encadré. Sur ce sujet, le président a-t-il tenu parole? Jean Lemarie pose la question dans son billet politique à 8h15.
Anatomie d'une chute a remporté cette nuit à Los Angeles l'Oscar du meilleur scénario original. Victoire pour Justine Triet et Arthur Harari dans cette catégorie. Quels sont les ingrédients d'un tel succès? On y revient à la fin du journal.
Avec une très courte avance, le centre droit est arrivé en tête des élections législatives hier au Portugal. Notons aussi la forte hausse de l'extrême droite. Les résultats ne sont pas tout à fait complets. Il manque le vote des Portugais de l'étranger. Ce sera la semaine prochaine. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Vous êtes à Porto et en direct, vous avez suivi ces élections. C'est la fin de ce qu'on a appelé l'exception lusitanienne. L'extrême droite semblait ne pas percer dans le pays, pas comme ailleurs en Europe, Julie.
Oui, et il y avait cette idée que la dictature, finalement, elle était encore fraîche dans les esprits ici. La révolution des œillets, c'était il y a 50 ans, 1974, et donc que l'histoire faisait en quelque sorte office de vaccin contre le populisme. Chega, c'est d'ailleurs un parti qui est tout jeune, le parti d'extrême droite. Il a 5 ans, et en 2022, lors des dernières législatives, c'était 7% des voix. Là, ce matin, ils sont à 18%, ils font plus que doubler leur score.
Nós hoje somos mais de 1 milhão em Portugal.
Nous sommes plus d'un million au Portugal, criait hier soir André Ventura, le leader de l'extrême droite. Je ne sais pas si ce sera dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, mais nous allons gagner les élections législatives.
Et dans son discours hier soir, André Ventura refuse d'ailleurs qu'on le situe à l'extrême droite. Il a mené une charge dans ce discours contre les journalistes.
Oui, ils ont tout fait, dit-il, pour nous diminuer. Ils nous ont visés particulièrement pendant cette campagne. Il a expliqué qu'on assistait aujourd'hui à la fin de l'influence de l'extrême gauche et de la gauche au Portugal, que les électeurs avaient donné une majorité de droite et qu'il fallait respecter ce vote, que l'alliance de centre-droit arrivée en tête ne pouvait pas se pincer le nez comme elle le fait actuellement, qu'elle devait négocier avec lui pour former un gouvernement. André Ventura, professeur de droit, ex-commentateur de foot, catholique fervent, admirateur de Trump, de Bolsonaro, qui s'affiche volontiers aux côtés de Marine Le Pen, a modéré son discours pendant la campagne. Lui, adepte des propos xénophobes, anti-gitans notamment, qui disait l'an dernier que les JMJ, le Rassemblement des Jeunes Catholiques au Portugal, avaient aussi permis à des milliers de migrants d'Afrique et du Moyen-Orient d'entrer dans le pays, ou qui scandait en 2021 « Dieu, famille, patrie, travail », référence claire à la dictature de Salazar. Il a donc su séduire en faisant campagne contre l'immigration et surtout contre la corruption des responsables politiques, plus particulièrement des socialistes empêtrés dans des affaires.
Julie Pietri, au Portugal, les législatives dans ce pays, c'était aussi les enjeux internationaux. Ce matin, à réécouter en podcast sur l'application Radio France et sur le site internet de France Culture. Il y a 6 mois, une partie de la ville de Derna, dans l'est libyen, a été ravagée par des inondations. Le cyclone Daniel a provoqué l'effondrement de 2 barrages. Le bilan officiel est de 4300 morts et des milliers de disparus. Un procès a commencé. Aujourd'hui, Amnesty International publie un rapport sur cette catastrophe et dénonce une action judiciaire biaisée. L'ONG exige l'intervention des Nations Unies, Arnaud Brun.
Sur les 16 accusés, seul l'ancien maire de Derna et le vice-gouverneur de la Banque centrale de Libye, actuellement en fuite à l'étranger, avaient des responsabilités au moment du désastre. Les 14 autres sont de simples fonctionnaires. Pour Bassam Alkantar, chercheur à Amnesty International, ces profils sont la preuve que les autorités de la région, sous la coupe du maréchal Khalifa Haftar, veulent camoufler les vraies responsabilités.
It's not only a person who's sitting on his desk responsible for maintaining a two.
Ce n'est pas une personne assise derrière son bureau en charge de 2 barrages vétustes qui est responsable de la mort et de la disparition de milliers de personnes. Ce sont les politiciens qui ont approuvé des budgets de maintenance opaques. Ce sont les militaires qui sont de fait les dirigeants de l'est de la Libye qui devraient être interrogés par la justice sur cette catastrophe.
That should be questioned and investigated about this catastrophe.
Au lendemain du passage du cyclone Daniel, de nombreux habitants de Derna ont manifesté pour exiger des comptes. Des dizaines ont été arrêtés arbitrairement, selon le chercheur.
Nous avons de nombreuses preuves que des milices qui ont commis des crimes contre l'humanité bénéficient d'une immunité et qu'ils continuent d'obtenir de l'argent du gouvernement et du Parlement de l'Est. Jusqu'à maintenant, les gens ont peur de déposer plainte devant n'importe quelle juridiction.
Amnesty International demande que la Commission des droits humains des Nations Unies, qui se réunit en juin, puisse mener une enquête sur les causes et les conséquences du cyclone Daniel à Derna.
Le Hamas se disait hier soir toujours ouvert aux négociations sur une trêve avec Israël après 5 mois de guerre à Gaza, alors que commence aujourd'hui dans plusieurs pays musulmans ainsi qu'en France le Ramadan. Le conflit dans l'enclave palestinienne suscite beaucoup d'émotions à travers le monde. La communauté internationale s'inquiète pour les civils tant la situation dans l'enclave assiégée est catastrophique. Les manifestations pro-palestiniennes se succèdent. Hier, aux Pays-Bas, l'inauguration d'un nouveau musée de l'Holocauste a été perturbée. Plusieurs centaines de personnes à l'extérieur dénonçaient la présence du président israélien. Environ 200 mosquées ont même appelé le roi à ne pas le recevoir. À Amsterdam, Antoine Moutot.
Ces manifestants pro-palestiniens arrivent au bout d'une longue marche à travers le centre d'Amsterdam. Pendant près de 6 heures, ils ont protesté contre la présence du président israélien Isaac Herzog à l'inauguration du nouveau musée de l'Holocauste. Sarah, 22 ans, est venue exprès de La Haye à 1 heure d'ici pour faire entendre sa voix.
Le musée de l'Holocauste est super important car il montre que les génocides sont inhumains. Mais il y a encore un génocide en ce moment, en Palestine, à Gaza. Donc comment quelqu'un qui commet lui-même le génocide peut-il ouvrir un musée de l'Holocauste ?
Plusieurs centaines de mètres plus loin, un important cordon policier entoure le nouveau musée de l'Holocauste. Quelques heures plus tôt, une partie des manifestants huait les personnes sortant de la synagogue portugaise où s'est tenu le discours d'inauguration du roi. Plusieurs incidents violents ont eu lieu et la police a procédé à une dizaine d'arrestations. Les rassemblements de dimanche font beaucoup de bruit ici aux Pays-Bas, en particulier parce que l'extrême droite néerlandaise anti-islam, grande gagnante des législatives de novembre, se dit pro-Israël et accuse les pro-palestiniens d'antisémitisme. Le député d'extrême droite Geert Wilders, qui tente toujours de former un gouvernement de la droite, du centre et de l'extrême droite, avec lui-même comme premier ministre, a qualifié les manifestants de racailles et prône leur expulsion des Pays-Bas.
C'est l'heure de vérité pour la directive européenne sur les travailleurs des plateformes. Les ministres du Travail des 27 États membres se réunissent aujourd'hui pour un ultime vote sur ce texte. Cette nouvelle règle est censée permettre aux travailleurs indépendants des plateformes, livreurs à vélo, chauffeurs VTC, d'obtenir plus facilement le statut de salarié s'ils en font la demande. Après s'y être longtemps opposés, la France pourrait finalement voter le texte qu'elle a pris soin de détricoter une dernière fois, François Chagnot.
Oui, jusqu'à la dernière minute, la France tente d'affaiblir, voire de saborder cette directive. Aujourd'hui, le texte, issu d'un accord entre le Parlement et la Commission, prévoit que les États membres doivent intégrer dans leurs droits une présomption de salariat. Ce mécanisme permet aux travailleurs indépendants des plateformes d'obtenir plus facilement le statut de salarié et donc la protection sociale que cela implique. La Commission estime que 5,5 millions de travailleurs indépendants européens pourraient en bénéficier. Et ça ne convient pas à la France. L'entourage de la ministre du Travail assure qu'en l'état, le texte est imprécis et fait courir des risques juridiques. En fait, ce serait surtout un problème pour les plateformes. Si le texte est adopté, ce serait désormais à Deliveroo, par exemple, de prouver que ces livreurs sont vraiment des indépendants et pas des salariés déguisés. Alors pour éviter cela, la France a réécrit le texte vendredi pour exclure certaines catégories de travailleurs de cette présomption de salariat. Cette manœuvre peu orthodoxe pourrait enterrer définitivement le texte car si ces amendements sont adoptés, aujourd'hui il faudrait engager de nouvelles et longues négociations avec le Parlement européen. Mais le temps manque, le Parlement doit boucler ses travaux avant la fin de la session plénière en avril et les élections européennes du 9 juin.
8h09 sur France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Emmanuel Macron se prononce en faveur d'une aide à mourir sous conditions strictes.
Oui, on en sait désormais plus sur la direction que souhaite prendre le gouvernement. Un projet de loi sur la fin de vie sera présenté le mois prochain au Conseil des ministres. Le chef de l'État s'exprime dans une interview aux journaux La Croix et Libération. Seules les personnes majeures, capables d'un discernement plein et entier, atteintes d'une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, pourront la demander. Demande qui sera ensuite soumise à l'avis collégial d'une équipe médicale. Pour le maire LR d'Antibes, Jean Leonetti, à l'origine d'une loi sur la fin de vie, les termes sont encore trop flous.
Moi, ce que je vois de positif, c'est l'affichage d'une prudence. Malheureusement, on aboutit à un flou du en même temps qui fait que il dit que c'est ni l'euthanasie ni le suicide assisté. En réalité, c'est un peu des deux. Voilà. Et quand on est flou, eh bien, il y a une difficulté à l'application des lois qui sont pas extrêmement claires. Le deuxième point, c'est que la définition de l'action française dans ce domaine va être floue. Aide à mourir. L'aide à mourir, ça peut être interprété comme un suicide assisté, une euthanasie, ou bien le développement des soins palliatifs. Enfin, on dit que c'est les gens qui vont mourir à moyen ou à court terme. Moyen terme, court terme, on arrive à peu près à voir que c'est quelques jours, quelques semaines. Moyen terme, c'est quoi? C'est un an? C'est deux ans? Donc on voit bien que là aussi, on va avoir d'énormes difficultés dans l'application de la loi.
Jean Leonetti, des propos recueillis par Loïc Dutoit. Nous reparlerons de la fin de vie dans le billet politique de Jean Lemarié juste après ce journal. La CFDT annonce ce matin à signer Carrefour en justice sur sa politique sociale. Annonce faite par la branche service du syndicat qui reproche aux géants de la distribution la cession de nombreux magasins à des sociétés tierces, ce qu'elle considère être des délocalisations locales. Dans le viseur de la CFDT, le passage de nombreux magasins en location en gérance et en France. Après la Palme d'Or, 2 Golden Globes, 6 Césars, voilà une consécration supplémentaire pour le film Anatomie d'une chute de la Française Justine Triet, et pas n'importe laquelle, l'Oscar du meilleur scénario original. Justine Triet et Arthur Harari l'ont reçu cette nuit à Los Angeles, une première dans cette catégorie pour un film français depuis 1967 et Un homme et une femme de Claude Lelouch. Bonjour Éric Chavroux.
Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez suivi cette cérémonie qui marque un nouveau point d'orgue pour cette œuvre, phénomène, même si la concurrence était rude, avec un triomphe pour Oppenheimer, 7 statuettes, le film de Christopher Nolan, meilleur film et meilleur réalisateur.
Anatomie d'une chute n'égale pas les 5 statuettes de The Artist, mais la compétition était plus âpre qu'en 2012 et le palmarès international du film reste incroyable avec plus de 90 récompenses et 200 nominations portées par plus d'un million de spectateurs à l'étranger. Un ingrédient en particulier a fait son succès et a donc été sacré cette nuit, son scénario, ce drame familial qui nous entraîne dans la vie d'un couple et dans les méandres d'un procès, un récit sur la judiciarisation de l'intime, pimenté par les rivalités professionnelles alors que la femme prend l'ascendant sur son compagnon. Pas d'Oscar pour Sandra Hüller, mais Anatomie d'une chute a aussi capitalisé sur son casting, avec également le jeune Milo Machado Graner et son regard perdu, et le chien Snoop, ce border collie aux yeux bleus perçants qui a séduit Hollywood. La réalisatrice, enfin, bien sûr, Justine Triet, marquante dès son discours polémique à Cannes sur la réforme des retraites et sur, je cite, la marchandisation de la culture, Justine Triet devenue une égérie cool des cinéphiles internationaux. Le tout sur fond d'une musique emblématique, signée d'un autre Snoop Dogg, très apprécié aux États-Unis.
Et vous avez joint Éric Chavroux juste après la cérémonie, la coproductrice du film, Marie-Ange Luciani.
On est quand même très très heureux parce que c'est la fin d'une grande aventure et ça fait 8 mois qu'on est sur le terrain et que Justine travaille beaucoup aux États-Unis pour essayer de décrocher au moins une statuette. Elle l'a fait. Là, Justine, tout le monde vient la voir. On est avec toute l'équipe. Il y a beaucoup de monde avec nous qui nous ont accompagnés de France. Et voilà, en fait, ça y est, là on est à ce qu'ils appellent le bal du gouverneur.
C'est un symbole que ce soit le scénario.
qui est très beau, bah, déjà, c'est que ça récompense le travail d'Arthur et de Justine, 2 ans, dont 1 an de confinement pratiquement. Et oui, moi, je trouve ça un symbole très fort aussi parce que c'est le début de tout. Et ils lui ont mis un soin particulier dans cette écriture. C'est vrai, quand on le faisait lire, c'était vraiment quelque chose qui était, pour nos partenaires, assez éblouissant. Et c'est vrai qu'on a pu bénéficier évidemment encore de notre système français d'exception culturelle et qui fait que ici en France, le réalisateur a le final cut et sur le scénario aussi, on peut lui proposer et lui donner une très très grande liberté.
Et c'est la Chine alors maintenant ?
Oui, on part en Chine la semaine prochaine, 3 jours, parce que le film sortira là-bas, ouais. Et ensuite, on arrête.
La joie de Marie-Ange Luciani, coproductrice du film Anatomie d'une chute. Les précisions en direct d'Éric Chavroux. 3 morts et plusieurs disparus dans le sud-est de l'Hexagone après de violentes intempéries. 6 départements sont placés en vigilance orange par Météo France aujourd'hui dans le centre et l'ouest du pays pour crue et vague submersion. Celle pour crue est levée dans le Gard et les Bouches-du-Rhône. Un temps très variable aujourd'hui. Comptez 9 degrés cet après-midi à Lyon, 10 à Lille, 13 à Paris, Nantes et Strasbourg, 15 degrés à Perpignan et Marseille.